Depuis mes 18 ans, je vis une douce idylle. Je sais que ce bonheur ne fait pas l'unanimité autour de moi et pourtant je n'ai pas l'ombre d'un remords. Ce n'est pas une relation exclusive qui se joue dans un tête-à-tête un peu étouffant. Non, nous sommes plus que deux et c'est pour ça que je suis comblée. La fréquence de nos rencontres varie, mais l'intensité, elle, ne faiblit pas. On a établi toute une sorte de rituel. Moi, par exemple, je porte toujours une tenue élégante et confortable. Ça dépend vraiment des gens. À chaque fois, je sens l'excitation monter. Je crois que je n'ai jamais autant ressenti de plaisir. Autour de moi, il faut bien le dire, des inconnus dont je n'ai jamais été aussi proche. Des grands, des petits, des blonds, des roux, des jeunes, des vieux. Le plaisir nous réunit et c'est bien la seule chose qui compte. Bon, on va pas se mentir, la performance compte beaucoup. Et tout ça dépend de sa forme. Dans ces moments, je sors littéralement de moi, je deviens quelqu'un d'autre. L'année dernière, jour pour jour, épuisée d'avoir trop crié, je vivais la plus belle expérience collective de mon existence. Même les plus critiques de mon entourage n'ont rien eu à redire. Peut-être parce que nous étions plusieurs millions dans le même état. L'année dernière, j'avais à nouveau 18 ans, comme en 98, quand on a gagné la Coupe du Monde.
France Inter. Duh. Le Mac de l'été. Leïla Kaddour.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Mac de l'été. Je viens de faire mon coming out footballistique. J'ai deux témoins de choix avec moi en studio, le metteur en scène Mohamed El Khatib. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Philippe Leclerc, le directeur adjoint de la rédaction de l'équipe.
Bonjour.
Bonjour. Amis auditeurs, pas de panique. Si vous êtes réfractaires au ballon rond, j'ai des arguments pour vous faire passer un bon moment avec un véritable duel au sommet. Mohamed El Khatib, vous êtes un fondu de foot et vous en avez fait votre matière première dans deux de vos créations. Comment expliquer brièvement aux réfractaires que théâtre et foot, théâtre, culture donc, et foot ne sont pas des ennemis jurés?
Bah, plus que ça, ce sont presque les deux versants d'une même pièce, ce sont des passions communes qui ont où dans chacun se jouent des tragédies. Mmh. Avec presque cette force-là du sport, c'est que la tragédie au football, elle est incertaine. On ne connaît pas le résultat. Alors que dans la littérature, on sait à peu près comment finissent les pièces classiques.
Et vous, Jean-Philippe Leclerc, quelle parenté voyez-vous entre cette discipline et la culture dans le sens large ?
Entre le football et la culture.
La culture ou le théâtre, la littérature, le cinéma, je sais que...
Bah, c'est-à-dire qu'en France, c'est pas venu tout seul, quoi. Mm-hmm. Donc, je suppose qu'on va en parler un petit peu plus tard, mais la culture et le sport ont longtemps même été opposés. Il y a eu une sorte de snobisme.
De mépris de classe.
De mépris de classe, oui, qui s'explique par différents facteurs, je crois, beaucoup par l'éducation, en fait. Mm. C'est-à-dire que dans le système anglo-saxon, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis, le sport est totalement intégré à l'université. Tout le monde a entendu parler des fameuses courses d'aviron Oxford, Cambridge, ouais. Ou aux États-Unis les universités américaines. Voilà, le sport fait vraiment partie de l'identité. C'est-à-dire que quand on est de UCLA, voilà, on supporte les équipes de football américain, de basket, de UCLA. Et puis c'est aussi une façon de ramener de l'argent, ce qui est très important aux États-Unis. Alors que quand on est étudiant à la Sorbonne ou à Lyon 2 ou je ne sais où, le sport, au contraire, il y a même une quête dès l'école primaire pour se faire dispenser de gym.
Vrai.
Donc, d'où à mon avis longtemps cette espèce de mépris de classe et intellectuel entre le sport et la culture.
Alors le duel au sommet du jour, aussi étonnant que cela puisse paraître, va se jouer entre Michel Platini et Marguerite Duras. Ce n'est pas du chiquet, la rencontre remonte à décembre 87 dans les colonnes du journal Libération. Mais avant de vous raconter cet entretien un peu surréaliste, on va pas se cacher, je vous soumets, messieurs, au questionnaire la dernière fois.
Moi, la dernière fois, ça remonte plus loin.
La dernière fois, Mohamed El Khatib, que vous avez pleuré de rage à cause d'un match.
Alors
vous avez pleuré déjà au match?
Non, mais je pleure que dans les victoires.
C'est vrai?
Je suis ému que par les victoires qui
qu'est-ce que fait la défaite alors sur vous?
Qui me donne la chair de poule. Ça me plonge dans un isolement, je coupe tout, je veux plus parler à personne.
Dernier moment donc, traumatique, alors c'était quand?
Extrême solitude. Ouais. Ben, c'est la défaite de. C'était en demi-finale de Ligue des Champions, la défaite de l'Ajax d'Amsterdam. Et parce que je trouvais que les Hollandais méritaient de gagner parce qu'ils avaient le plus beau jeu, le plus spectaculaire. Et malheureusement, dans le football, c'est pas toujours le plus spectaculaire qui l'emporte, celui qui produit du jeu. Et donc ça me rend triste parce que je suis un peu contre l'efficacité.
Jean-Philippe Leclerc, vous, la dernière fois que vous avez prétexté un empêchement pour ne pas rater un match?
C'est assez facile, comme c'est mon boulot. J'ai quand même la meilleure excuse du monde. Quoi. Donc ouais, voilà, donc l'excuse.
Pas obligé de mentir.
Non, c'est pas obligé. Non, c'est, il faut absolument que je regarde le match. C'est mon boulot. Donc c'est ça. Là, ça, ouais. C'est incontestable.
Et vous, la dernière fois que vous avez pleuré, alors, au stade, vous pleurez ou pas?
Alors, moi, je pleure pas. J'ai plutôt tendance à casser, en fait.
C'est-à-dire
que quand je suis vraiment énervé, ça me fait pas pleurer, mais je casse. Il m'est déjà arrivé de casser et mon portable et mes lunettes.
C'est vrai, de rage.
Parce que Saint-Etienne avait perdu contre Lyon. Je suis stéphanois, donc voilà. les derbies qui se terminent mal à la 92e minute, ça peut me mettre dans des états. J'ai honte très vite, mais. Mais sur le moment, il faut que je me défoule, quoi.
Mohamed El Khatib, la dernière fois que vous avez rêvé secrètement d'être une star du ballon rond, c'était qui et c'était quand?
Je reviens de Naples. Et sur tous les murs de la ville, vous avez des portraits de Diego Maradona, l'ange déchu. Et moi, j'ai toujours rêvé, j'ai toujours voulu être Maradona.
Et personne n'a pris sa place depuis. Toujours Maradona.
Personne. Vaguement Lionel Messi, mais... il n'a pas atteint le degré, le mythe qu'est Maradona.
Et vous, Jean-Philippe Leclerc, si je vais vous imaginer avec crampons chaussettes
Moi, ce serait Wendy Renard.
C'est vrai? Sérieux?
Non, à ce moment, on baigne en plein dans la Coupe du Monde féminine. Ouais. Donc voilà, après, mon héros quand j'étais jeune, c'était Dominique Rocheteau, mais voilà. Mais je vais essayer d'être un peu original, donc c'est Wendy Renard.
Mohamed El Khatib et Jean-Philippe Leclerc ont refait le match, mais avant on s'échauffe un peu pour éviter le claquage. Souvenez-vous, France Hollande en 81, match de qualif pour la Coupe du Monde, peut-être pas le plus mémorable, mais ce but à la 52e minute sur un coup franc de Platini, un tir croisé, brossé à mi-hauteur, contournant le mur, et quel commentaire.
Allez Michel, voilà, oui Michel.
Oui Michel, et le voilà, un coup franc magnifique, marqué pour cette faute de Van de Corput à la 8e minute de la partie.
Oui, on efface tout et on recommence. C'est une lucarne de Michel Platini. On recommence. Bravo Michel.
Michel Platini dans ses exploits sur le terrain. Après le mondial de 86, il prend sa retraite. En 87, il sort un livre et se retrouve face à Marguerite Duras. C'est complètement dingue. Deux monstres face à face. Un entretien dont vous avez fait, Mohamed El Khatib. Un spectacle, Duras et Platini, avec Anne Brochet et Laurent Poitrenaud. Pourquoi le transposer sur scène, ce moment un petit peu devenu mythique?
C'est une façon de le partager un peu plus largement. Et surtout, une page de l'histoire, dans l'histoire du football, presque qui a été un peu oubliée, mais aussi de la littérature. Et l'emmener dans le théâtre, c'était faire redécouvrir, finalement, un des enjeux pour moi, c'est l'absence au théâtre des classes populaires. Mmh. Et l'entrée du football dans le théâtre, c'est une façon de réconcilier, de faire une espèce de surface de réparation où on pourrait rendre au football d'une certaine façon une certaine dignité. Et je voulais que ça soit au théâtre, principalement parce que c'était la réunion des deux passions que sont la littérature ou le football. Et puis ça passe par les voix et par les corps. Et je trouvais ça assez juste de faire entendre ces deux voix. On parlait tout à l'heure de mépris de classe au début. Et ce qui est assez fascinant avec cet entretien, c'est qu'il n'y a aucun mépris. Ouais. Il n'y a aucune supériorité de la part de Marguerite Duras. Alors que ce sont deux monstres, chacun dans leur domaine. Que Michel Platini n'a aucune idée du rayonnement intellectuel de Marguerite Duras, et elle connaît pas grand-chose, il faut le dire, en football, et ça donne un face-à-face d'égal à égal qui est assez délicieux.
Un aperçu durassien interprété par Anne Brochet lors de l'émission d'Aurélie Charron sur France Culture cette année.
Dans le football, je vois un angélisme. Je trouve les gens, les hommes, dans le sens de l'humanité, dans une pureté que rien n'arrête et qui m'émeut énormément. Et je pense que c'est ça le principal de mon émotion quand je vois du football. Parce que j'en vois du football. Je t'ai vu à Mexico. C'était à Mexico, non?
Mmh.
Oui, je t'ai vu. Je t'ai vu souffrir. Je voulais tuer Maradona aussi. Tu vois, j'ai fonctionné complètement.
Jean-Philippe Leclerc, vous connaissez bien, vous voulez réagir à cet extrait quand même.
Maradona qui débarque, là, j'ai pas très bien compris l'histoire de Maradona avec Platini 86, donc elle devait faire référence à la rivalité entre la Juve et Naples. Mais oui, c'est un moment complètement surréaliste, mais avec des moments un peu barrés, puis d'autres qui sont d'une très très grande force, d'une grande sincérité.
Vous connaissez bien Platini pour l'avoir interviewé. Vous avez consacré un livre aussi à cet ange bleu, Platoche. Quand on entend la question de Duras, la réflexion qui est en œuvre, est-ce que ça semble pas un peu fou aussi que Platini accepte cette rencontre? Parce que finalement, est-ce qu'il prend pas un risque, celui de faire face à une femme de lettres qui pourrait ne pas se comporter avec élégance et venir essayer de l'enterrer sous des concepts et le faire sentir un peu idiot?
Non, lui, il le vit pas du tout comme ça. Lui, en fait, vous parliez de monstre. Effectivement, c'est un monstre qui a envie de rencontrer un autre monstre. C'est-à-dire que, à l'époque, il dit par exemple que l'œuvre de Picasso ne l'intéresse pas beaucoup, mais sa vie, oui. Donc, il a un moment de sa vie. Platini est assez particulier parce qu'il vient de raccrocher les crampons. Donc, il a sorti ce livre, qui est une biographie assez commerciale, bon, dont évidemment, il n'a pas écrit un mot. Et en fait, l'idée vient à l'époque, on disait son homme d'affaires, qui s'appelle Bernard Genestard, et qui cherche à vendre le bouquin et à le rendre un peu légitime.
Faire un coup.
Et donc, il appelle Christian Jorena, le chef des sports de Libération, en lui disant, voilà, ce serait bien de parler du livre et tout. Et puis, bon, Jorena a lu le livre, il n'est pas très enthousiaste. Et comme il vient de lire Le Marin de Gibraltar, il a cette idée sublime, forcément sublime, de dire, bah, tiens, on va réunir Platoche et Duras, et les deux acceptent spontanément, sans trop, à mon avis, se poser de questions, et avec une grande curiosité. C'est-à-dire que Platini est pas du tout le lecteur. Lui, il dit qu'à part Agatha Christie, il a jamais lu un bouquin de sa vie. Ouais. Mais voilà, il sent qu'il y a des choses quand même à partager, et qu'il va y avoir une sorte de proximité, de dialogue entre deux monstres qui peut être intéressant.
Et Duras ensuite consacrera un entretien à Mitterrand, donc c'est pour donner un peu l'équivalent. Mohamed El-Khatib, Platini a dit que ça a été le moment le plus difficile de sa vie. Alors quand j'ai là sous les yeux la copie du journal, je me suis plongée dans cet entretien, il n'a pas l'air d'être en grande souffrance, mais comment est-ce qu'on explique ça?
Je le soupçonne d'en avoir rajouté un peu quelques années plus tard, ouais, en disant bon, pour créer la légende, mais il a souffert au début de l'entretien, c'était un peu crispé, il se jauge un peu, et puis petit à petit il y a une confiance qui s'installe, il se laisse aller grâce à Marguerite Duras, parce qu'elle pose des questions complètement décalées. Ouais. Elle est à côté de... Et du coup, il est plus méfiant. C'est-à-dire que pour une fois, il n'a pas affaire à un intellectuel qui s'y connaît en football, qui pose grosso modo toujours les mêmes questions, qui sont forts de leurs analyses, etc. Là, il y a quelqu'un de complètement... avec une grande fraîcheur. Et il est désarçonné par les questions, qui sont des questions extrêmement humaines, extrêmement personnelles. Et donc, il se laisse aller, et c'est ce qui fait que cet entretien est de grande qualité.
Et en plus, il se détend assez facilement, parce que en gros, il replace un petit peu leurs deux disciplines dans le monde, la littérature, le football, et c'est Platini qui gagne à la fin.
Moi, je suis traduite dans 30 pays. 30 pays, ça fait plus que l'Europe et l'Amérique.
Oui, mais enfin, si vous allez dans les favelas, à Rio, je pense pas que la littérature soit très importante. Hein. Par contre, le football, ça, c'est important.
Les voix d'Anne Brochet, Laurent Poitrenaud, pour Duras et Platini. Platini est complètement détendu pour répondre ça à Duras, à un Goncourt. Enfin, je veux dire, c'est quand même...
Je pense qu'il y a un élément très important, c'est que la condition, c'est qu'il n'y ait pas d'intermédiaire. C'est-à-dire que, comment ça se passe? Ils arrivent, on les installe dans le bureau de Serge Julie. Ouais. Et donc, on appuie sur la touche enregistrement du magnéto et après tout le monde sort. Donc, il n'y a pas une sorte de passe-plat au milieu qui pourrait créer une distance. Donc, c'est vraiment une conversation. C'est pas une interview. C'est une conversation. C'est un dialogue et c'est vraiment un dialogue d'égal à égal. Et je pense que Platini, en fait, a pas l'habitude de ça. C'est-à-dire que il a toujours affaire à des journalistes, malheureusement, assez révérencieux, oui, ou même quand il rencontre des gens qui sont pas des journalistes, il y a toujours le côté, ah, je vous ai vu à Séville, ah, bah. Donc là, pour une fois, il est face à quelqu'un qui, voilà, le traite, je dirais, normalement. Et effectivement, au début, il est un peu désarçonné, et puis, je suis d'accord avec Mohamed, plus tard il va dire à Deniso, oui, il y a des questions, si un journaliste normal me les avait posées, je l'aurais collé au mur, tout ça. Mais du coup, au bout d'un moment, il se dévoile comme il s'est rarement dévoilé. Donc il y a vraiment des moments qui sont très importants dans la geste platinienne.
Alors c'est pas encore la mi-temps, mais on va reprendre un peu notre souffle sur France Inter avec le son du jour. C'est Glace au caramel beurre salé de Métronomie. Bon, j'ai traduit le titre hein, parce que mon accent anglais est toujours un peu compliqué. Mohamed El Khedib et Jean-Philippe Leclerc sur France Inter.
Leïla Kadour, le Mac de l'été sur France Inter.
Foot et littérature sur France Inter, Duras Platini rejoué sur scène, clin d'œil à notre deuxième étoile décrochée l'année dernière, jour pour jour au Mondial en Russie. Mais que se passe-t-il d'autre aujourd'hui dans le monde de la culture? Eh bien, il suffit de demander le programme.
D'après la légende, l'Angleterre autrefois avait un si bon roi que lorsqu'il mourut, nul ne put décider qui serait son noble héritier.
Si vous aimez la féerie et le fantastique, j'ai l'événement qu'il vous faut. Rendez-vous à Concorée dans le Morbihan et à Pimpon en Ille-et-Vilaine pour les rencontres de l'imaginaire de Brocéliande. Une semaine de concerts, de contes en plein air, de concours de costumes en famille et des conférences par exemple sur les dolmens. Merlin, le roi Arthur, vous allez en croiser un paquet et il y aura même une initiation au Troll Ball. Le but, placer une tête de troll dans un puits défendu par le camp adverse. Et attention, il y a même des règles internationales pour la longueur des armes en mousse et en latex. On s'installe tranquillement dans son canapé pour revoir une énième fois, pour une poignée de dollars, ce western spaghetti de Sergio Leone sorti en 66 avec Clint Eastwood, le premier volet de la trilogie du cinéaste italien. Et franchement, juste pour le plaisir de voir arriver Clint Eastwood vêtu d'un poncho à dos de mulet sur la musique d'Ennio Morricone et semer le trouble entre deux bandes rivales, c'est ce soir à 21h sur France 3.
Mais pas d'être muséifié sous la nef, l'ancienne gare, mais personne n'y prend garde. Dans nos poitrails ont lieu tous nos voyages. Dehors, la désolation contemple son ouvrage. Je sais, je suis le jeune noir à l'épée.
Et dernier jour pour profiter de l'expo, le modèle noir de Géricault à Matisse au musée d'Orsay. Peinture, sculpture, gravure, photographie, un travail essentiel sur la représentation des sujets noirs dans les œuvres majeures de l'histoire de l'art. Ces visages sont même, après recherche documentaire, dotés d'un prénom ou d'un nom. Venez donc faire la connaissance de Joseph, un modèle noir haïtien très populaire auprès des artistes dans les années 1830. C'est lui qui figure dans la toile Le Radeau de la Mairie.
Je sais, je suis le jeune noir à l'épée. À l'époque, je me disais, et comment pourrais-je m'aimer si sans cesse je dois lutter? Et comment pouvais-je t'aimer si sans cesse je luttais, je luttais? Sans cesse je luttais, je luttais. Comment pouvais-je t'aimer si sans cesse je luttais, je luttais?
Reprise de la rencontre avec ce match au sommet Duras Platini, cet entretien paru dans Libération en 87. On a aussi la sensation qu'il y a une dimension un peu philosophique. C'est de, si on enlève les noms, Duras Platini, et qu'on revoit certains échanges, c'est clairement de la philosophie, Mohamed El Khedib.
Il y a quelque chose d'assez beau. À un moment, c'est la réhabilitation de l'erreur. L'erreur dans le jeu, c'est-à-dire ce qui provoque scandale aujourd'hui, ce sont les erreurs d'arbitrage. Et Platini dit, s'il n'y a pas d'erreur, un match de football, c'est 0-0.
Mais je vous propose de l'écouter, tenez.
Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu-là? Démoniaque et divin.
Le football est aimé. Alors pourquoi il est aimé? Moi je vais vous dire pourquoi il est aimé. Parce qu'il n'a aucune vérité, il n'y a pas de vérité. Le plus fort ne gagnera jamais contre le plus faible au football.
Emploie un autre mot que celui de vérité. Aucune loi?
Aucune loi. Dans un sport collectif, il faut être engagé malgré soi. C'est pas forcément celui qui gagne qui est le plus fort. L'équipe de France est arrivée à un certain niveau parmi les plus forts. Mais après, alors, on refait le monde.
Et si ces hommes étaient parfaits, si les joueurs étaient parfaits, il n'y aurait pas de football?
Et il n'y aurait jamais de but. Si personne fait une erreur, il y a toujours 0-0.
Duras, c'est le football, donc hein, la prononciation d'Anne Brochet, c'est ça de drôle, et on le sait
très
que c'est
bien fait exprès.
Ouais, de dire football. Donc là, c'est réhabilitation de l'erreur, sans erreur, pas de spectacle.
Complètement, et en même temps, c'est Parménide d'Elé, l'être est, le non-être n'est pas, c'est-à-dire qu'il dit cette chose totalement basique, ouais. Pas d'erreur, c'est 0-0, mais c'est un abîme derrière ça, pas d'erreur 0-0, il réhabilite l'erreur, et socialement, on peut élargir ça à des questions sociales, à des questions politiques, à la question du chômage, ouais. Enfin, c'est toutes ces questions-là qui sont derrière, en tirant ce fil de pas d'erreur, c'est 0-0, réhabilitons l'erreur, réjouissons-nous qu'il y ait des erreurs, car l'erreur est humaine.
Et ça réhabilite aussi Platini, quelque part, parce que c'est simplement, c'est pas un coup de bol.
Non, c'est pas un coup de bol. Il a une vraie réflexion sur son sport. Après, il a toujours un côté un peu Colombo Platini, c'est-à-dire qu'il aime bien passer pour plus bourrin qu'il ne l'est vraiment. C'est une façon un peu de désarmer l'opposition. Si du coup ouais. on se méfie moins. Donc, quand il a été président de l'UEFA, il avait souvent ce côté-là. Il se faisait passer un peu pour le plouc lorrain. Et puis en fait, derrière, bam, il a un esprit très aiguisé qui fait que derrière, si vous vous méfiez pas, vous en prenez une dans les dents et c'est terminé, quoi.
J'aimerais qu'on revienne aussi dans cet entretien sur un événement qui a vraiment été l'un des plus grands traumatismes de l'histoire du football, la tragédie du Heysel à Bruxelles. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont nés ou qui sont tout jeunes, c'était le 29 mai 85, les Reds Liverpool vont affronter la Juventus de Turin. Platini y joue, c'est la finale de la Coupe d'Europe des Champions. Le pire va arriver, il y a une équipe de télévision qui tourne en direct, c'est un extrait justement de ce direct.
Bien, nous retournons immédiatement au Heysel où on vient d'apprendre qu'il y aurait des morts dans les tribunes. Arsène Vaillant, vous êtes sur place, est-ce que vous avez eu des informations à ce propos? On
voit regardez ce corps qui vient d'être déposé sur le brancard était totalement inerte. Hein.
Oui, on voit en tout cas que la tribune est jonchée de corps.
Oui.
On ne voyait pas tout à l'heure, on s'aperçoit maintenant que la tribune est jonchée de corps.
De toute façon, c'est dramatique, mais vraiment dramatique, et c'est lamentable ce qui s'est passé ici au stade du Heysel à l'occasion de cette finale de Coupe d'Europe.
Et le bilan s'élève à 39 morts, 450 blessés. Ce sont les hooligans anglais qui ont déclenché la charge. Il y avait des problèmes de sécurité aussi au stade. Jean-Philippe Leclerc, Platini revient sur cet événement qui est un événement traumatisant pour tout le public, tous les joueurs aussi.
Et
pour lui en particulier.
C'est un des, si ce n'est le plus gros traumatisme de sa carrière. Parce qu'en fait, il y a eu un match. Donc il y a eu 39 morts avant le match. Il y a eu un match. Il y a eu 1-0, but Platini. Et donc il lui a été reproché beaucoup d'avoir célébré son but, d'être sorti après, d'avoir brandi la coupe devant les supporters. Et donc, dans ces cas-là, il peut être assez... Enfin, pour lui, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, il a été, dans un premier temps, assez agressif et un peu dans le déni. Il y a eu une interview dans Paris Match où même il disait « Oui, mais je suis resté dans le vestiaire, j'ai pas célébré le but. » Enfin, alors que tout le monde l'avait vu, donc c'était assez bizarre. C'est assez savoureux parce qu'il avait même accusé le journal Libération d'avoir écrit qu'il avait joué sur le ventre des morts, alors que Libé n'avait jamais écrit ça. Et là, pour la première fois, face à Duras, il y a la sincérité qui remonte.
Ouais.
Et donc, il a des phrases qui sont très fortes et... avant et après, il s'est jamais exprimé comme ça. En gros, il raconte que pour lui, le football, c'est un jouet d'enfant, et qu'il s'était toujours cru protégé par le football, et que soudain, au Heysel, il se rend compte que en fait, le football ne le protège plus de la tragédie, ne le protège plus de la mort, et il a cette illusion là pendant tout le match. Et c'est quand il rentre à l'hôtel et qu'il voit les images des cadavres qui sont absolument des images affreuses, des gens qui sont tout bleus, tout gonflés, qu'il se rend compte qu'en fait le football ne le protège de rien. Et c'est là qu'il a cet aveu face à Duras en disant voilà, ce jour-là, je suis devenu un homme. Mmh. Et je pense que pour arriver à sortir ça, il fallait vraiment qu'il y ait quelqu'un comme Duras en face et pas un journaliste sportif lambda.
Comment vous avez, découvert cette tragédie du Heysel, Mohamed El-Khetti, parce que vous étiez tout petit à cette époque-là? Quand est-ce que dans la culture d'un fondu de foot, on découvre ces événements? Nous, notre génération, c'était Furiani. J'ai souvenir là, moi, gosse.
Mais très tard, justement, c'est au moment de Furiani, simplement, où les
D'accord.
journalistes commencent à dresser l'histoire de toutes les tragédies, que le Heysel a été porté à ma connaissance. Et la façon dont Platini en parle est extrêmement touchante. parce qu'effectivement, il dit que c'est là qu'il est devenu un homme. Et ce qui m'a... Moi, je l'ai trouvé toujours une excuse, je ne sais pas si c'est vrai. Il disait, si on ne jouait pas dans Bruxelles, c'était une chasse à l'homme. C'était une chasse à l'homme et le bilan a été catastrophique. Ouais. Alors je ne sais pas s'il dit ça a posteriori, parce qu'en même temps, faut remettre les choses dans leur contexte, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une circulation de l'information comme aujourd'hui. Ils jouent, ils savent pas encore combien il y a de morts exactement. Aujourd'hui, ça serait inimaginable, c'est-à-dire qu'il se passe ça, le match ne se joue pas parce que tout le monde est au courant. En mondovision, l'information circule très vite. On ne pourrait pas jouer, ça serait totalement indécent. À l'époque, c'est plus compliqué.
Jean-Philippe Leclerc.
En fait, quand les joueurs rentrent sur la pelouse, ils savent qu'il y a eu des morts, mais ils savent pas exactement combien. Il y a certains qui disent qu'il y en a eu deux, d'autres qu'il y en a eu 100. Donc après, on leur a pas laissé choix. C'est-à-dire que très clairement, eux étaient dans le vestiaire, confinés dans le vestiaire. Il y a eu des, à un moment, ils sont ressortis pour calmer leurs propres supporters, les supporters italiens qui étaient aussi très très énervés. Et il y avait aussi des fous furieux côté italien. Après, ils sont re-rentrés dans le vestiaire. Il y a des joueurs qui ont commencé à dire on joue pas. Et là, les autorités, l'UEFA, l'arbitre sont arrivés en disant vous avez pas le choix, vous jouez. Donc moi, par rapport à ce qui a pu lui être reproché sur le moment, je trouve ça assez injuste. Après, il y a une forme de le foot, c'est un peu par moment comme une sorte de drogue. Et une fois que le match a commencé, il a commencé pour tout le monde. Donc l'arbitre a arbitré, les joueurs ont joué. Il y a eu des scènes de joie immenses à Turin après le match.
Ça semble impensable.
Ce qui est quand même incroyable, parce que là, pour le coup, les téléspectateurs avaient vu les images. Peut-être qu'ils avaient des proches qui étaient au stade. Et pourtant, les gens sont sortis dans Turin, ils sont allés dans les fontaines, ils sont baignés et tout ça. Donc uniquement aller reprocher à Platini d'avoir eu cette attitude-là, je trouve ça un peu injuste.
Ouais.
En revanche, toute la période, en gros, entre 85 et 87, il est dans le déni total et il a cette forme, par moment, même un peu d'agressivité pour dire ouais, qu'est-ce que vous venez me reprocher alors que voilà, j'étais parfait. Et il a eu du mal à voir en face les fantômes du Ezel, c'est-à-dire qu'il y a eu une association des victimes françaises du Ezel qui s'est constituée. Des gens qui étaient beaucoup allés le voir jouer et ils voulaient pas les rencontrer, alors que avec Jacques Vendroux et avec les amis du Variété, ils ont joué pour les victimes de Furiani, pour les victimes de plein de maladies, de catastrophes. Ils voulaient pas voir les gens du Ezel, tellement ça le confrontait à quelque chose de très déstabilisant. D'où l'importance de cette interview avec Duras, où là on a un pur moment, on a un pur joyau de vérité platinienne.
Oui, où elle l'interroge sur la folie qui s'empare des joueurs, une forme de hubris aussi, si on fait encore un parallèle avec le théâtre, être capable de sauter de joie alors que le pire est arrivé.
Le Mac de l'été sur France Inter.
J'ai cru que c'était mieux hier, alors j'ai reculé. J'ai cru pouvoir te plaire, est-ce que je me suis plantée? J'ai repensé à cette nuit, dans tes bras un instant. C'était si long et infini, éphémère pourtant. Et dans mes souvenirs c'était si bien, c'est sûr, j'y repenserai. Silence me fait douter, tu laisses un vide en moi. Je crois que j'ai aimé la violence de tes choix, tes mains qui englobent mon cou et l'étreinte d'une nuit à genoux. Je sais que je ne devrais pas, je sais que je ne devrais pas, mais j'en veux encore, encore. Et dans mes souvenirs c'était si bien, c'est sûr. J'y repenserai demain. Mais dans mes souvenirs c'était si bien, c'est sûr. J'y repenserai demain. Oh, j'en veux encore. Je veux ton corps. Oh, j'en veux encore. Toujours plus fort. Je te parle de souvenirs, comme s'ils n'existaient pas. J'ai besoin de sentir quelque chose en moi. Je te parle de souvenirs, et tu sais qu'ils en disent long. Fais-moi. je ne dirais pas non. Oh, j'en veux encore.
Il est venu le temps de rembobiner. On fait revivre une voix qui a marqué l'histoire du football au sens large. Et je suis persuadée que ça va vous intéresser, messieurs. C'est la voix d'une star de l'AS Saint-Étienne. Avantage à Philippe Leclerc, qui est un Stéphanois. Il revient sur un événement intervenu en avril 58. Lui, c'est Rachid Mekloufi. Il a quitté le territoire français. Il est parti en direction de Tunis pour former le 11 de l'indépendance, l'équipe du FLN. Rachid Mekloufi dans le transistor d'El Khatib et de Leclerc. En 2007.
En général, à cette époque, très rares les gens qui savaient qu'il y avait une guerre d'Algérie. Il n'y avait que les familles qui avaient un enfant militaire là-bas qui savaient, parce qu'on était blackout total, hein, la presse, etc. Même nous, à part quelques informations qu'on recevait, tout ça, on était un petit peu déconnectés. Et c'est le FLN qui fait cette action en 1958. Ça veut dire qu'il était en avance sur ces publicitaires qui en ce moment sont en train de faire, etc. Finalement, c'est un type de publicité et de réaction, parce que quand on réfléchit bien, le FLN a fait cette action avec 10 joueurs. Donc ils ne savaient même pas qu'on jouait à 11. Donc c'était beaucoup plus une action politique pour dire au peuple français, réveillez-vous. Il y a une guerre qui est en train de se dérouler, il y a 4 ans, etc. Et d'autant plus qu'on ne disait pas qu'il y avait la guerre et pacification. Donc cette action a permis justement de réveiller un peu le peuple français, la masse française, et ce qui a fait que, entre autres, la 4e République est tombée. Pas oublier ça, parce que finalement on a tendance à dire, bon, c'est des footballeurs et puis c'est tout. Mais la 4e République est tombée et De Gaulle est venu au pouvoir.
Rachid Mekloufi, Jean-Philippe Leclerc, c'est aussi montré une autre dimension du foot. Il y a cette rencontre au sommet du RAS Platini et puis il y a aussi le foot engagé, la dimension militante du foot.
C'est clairement, l'équipe du FLN, c'est l'éruption de la politique dans le foot français.
Ouais.
C'est-à-dire que, et c'est extrêmement brutal. C'est-à-dire que un matin, tous les supporters des clubs de foot français qui considèrent que voilà, il y a la politique d'un côté et les foot de l'autre, se réveillent et on a 10 des meilleurs joueurs du championnat qui sont partis pour former une sélection nationale entre guillemets et donc c'est y compris des vedettes, parce que Mekloufi à l'époque c'est vraiment un des meilleurs joueurs de l'AS Saint-Étienne et un des meilleurs joueurs du championnat de France.
Il est aux portes de la sélection française.
Donc c'est comme si je sais pas aujourd'hui on avait Mbappé qui disait salut les gars moi je vais jouer pour une sélection pour un pays qui demande son indépendance et tout ça. Donc c'est un choc terrible et d'une grande brutalité.
Et c'est un choix assez incroyable parce qu'en effet Mekloufi avait une grande carrière devant lui. Alors il reviendra en France plus tard, mais c'est vrai que on peut se dire qu'il a un peu sacrifié sa carrière pour ses idées. Dans le Mac de l'été, on a poussé les murs pour faire une petite place à la poésie. Tous les jours, dans cette émission, une grande voix de France Inter, bien connue des auditeurs, nous lit un texte.
Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches, que ces rois de l'azur maladroits et honteux laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traînés à côté d'eux. Ce voyageur ailé comme il est gauche et veule, lui n'a guère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher.
Merci Patricia Martin, vous l'avez reconnue, vous la retrouvez à la rentrée dans le 6-9 du week-end. Patricia, pourquoi avoir choisi de nous lire ce texte ?
Alors, vous l'avez peut-être reconnu aussi, c'est l'Albatros de Baudelaire. C'est un très beau texte, moi j'aime beaucoup Baudelaire. Alors, il se trouve que... Alors, c'est une histoire qui en soi pourrait paraître pas très gaie, mais qui en fait n'est pas si triste que ça. C'est un très bon ami à moi, il y a quelques années, quand il y a eu le H1N1, l'épidémie dans toute la France, qui a reçu ça en pleine figure, qui a été transporté à l'hôpital, mis en coma artificiel parce qu'il pouvait plus respirer. Et qui est resté donc en réanimation pendant des semaines. Et j'allais le voir tous les jours. Et quand c'était le soir, il y a donc des horaires très précis, il y avait comme ça, c'était donc l'hiver, il y avait une atmosphère un peu feutrée, des petites lumières allumées avec toutes ces seringues et tout autour de lui. Lui, évidemment, dans le coma, donc il m'entendait pas, il n'en a aucun souvenir d'ailleurs. Je lui lisais des poèmes, et je lui lisais notamment beaucoup de poèmes de Baudelaire, parce que il adore Baudelaire, voilà. Et il y a eu des moments moins drôles, où je suis arrivée, en plus des poèmes de Baudelaire, avec des habits sous le bras, parce qu'on m'avait dit, bon bah ça y est, c'est la fin, il a quand même failli mourir à deux reprises. Je lui avais apporté ses habits pour l'habiller une fois mort. Je lui demandé ensuite si ses habits convenaient. Il m'a répondu oui, enfin c'est pas terrible. Voilà, l'histoire finit mieux qu'elle n'a commencé.
Merci Patricia. Est-ce que vous êtes des lecteurs de poésie tous les deux, Mohamed El-Khatib ? Je crois que oui, vous en avez appris beaucoup par cœur à l'école.
Hein ? J'ai pas le choix, c'est le dressage à la française, c'est-à-dire le passage par l'hypocagne et la cagne, où toutes les semaines il faut aller apprendre des poèmes, y compris en vieux français.
Mais est-ce que ça reste ? Parce que moi j'en ai appris des tonnes, mais alors franchement...
Mais alors ça reste. Je me souviens de deux choses, des poèmes en vieux français et l'apprentissage par cœur du Coran. Ce sont des choses qui restent encore et qui peuvent ressurgir à n'importe quel moment.
À n'importe quel moment. Et vous, Jean-Philippe Leclerc ?
Moi, j'ai eu « Je t'aime » de Paul Éluard au bac français. Je me souviens de « Je t'aime » de Paul Éluard. Voilà. Et elle avait pris le pli quotidien de venir dans ma chambre chaque matin. Voilà, je sais pas pourquoi, c'est un vers auquel je pense souvent.
Quelle est votre prochaine envie de culture ? Bientôt, il y a un documentaire qui va vous faire plaisir sur Diego Maradona d'Asif Kapadia qui sort à la fin de ce mois. Mais en attendant, dites-moi, est-ce qu'il y a un livre qui est empilé ou une liste de livres qui sont sur votre table de chevet, un film que vous voulez rattraper, quelque chose que vous avez vraiment envie de dévorer, vous attendez d'avoir un peu le temps devant vous ?
Alors moi j'ai vu le Maradona, j'ai eu la chance de le voir, donc ça c'est fait. Et le livre que j'ai envie de lire là, c'est le White de Bret Easton Ellis.
Et vous, Mohamed El-Khatib ?
Moi c'est je veux pas pour rien au monde rater le film d'Alain Cavalier, Être vivant et le savoir, que je l'ai pas encore vu.
Alain Cavalier, un grand passionné de foot aussi, avec lequel vous avez animé des rencontres au Théâtre des Amandiers à Nanterre. Et alors, je dois préciser aussi que si vous voulez voir Duras, Platini, il y a une tournée en octobre, novembre à la rentrée, Blois, Arcachon, janvier, toutes les dates sur le site du Mac de l'été. Stadium aussi, votre première pièce consacrée aux supporters de Lens. Mais moi, mon projet en cette fin d'émission, c'est de vous emmener ailleurs, un voyage immobile grâce à la musique. Aujourd'hui, notre guide nous entraîne dans les Caraïbes, sur l'île de Tobago. Et qui a dit qu'une octogénaire ne pouvait pas nous mettre le feu ? Calypso Rose sur France Inter avec Calypso Queen.
Respecting me long, long reign. They making plot to take down me name. I've been breaking down walls ever since I was small. They could stand up tall and strong like a wrecking ball. I would knock them down. They say that I carry too long, forgetting that my constitution is strong. Instead of respecting me long, long reign, they making plot to take down me name.
the constitution is strong. Instead of respecting me long, long reign, they making blood to take down me name. Everywhere I reign supreme, the one and only Calypso Queen. No man alive or dead could man come and take the crown off me head. They used to call me small island girl. Now I travel the world. Anywhere they go, they know I am Calypso, Rose Queen of Calypso.
Calypso Rose sur France Inter. Merci d'avoir été avec nous, Mohamed El-Khetib et Jean-Philippe Leclerc.
Merci.
Merci à vous.
On se retrouve dès demain 18h. On sera en direct du Festival d'Avignon. Dans un instant, le téléphone sonne. Belle fin de journée à vous tous sur France Inter.